Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de Suède, de Belgique et d'Allemagne.
Voilà, nous recevons dans ce studio Jean Dembo Longo. Il est chef de département de physique et hydrologie à l'Université de Kinshasa. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous allons, vous savez, dans plusieurs coins du pays, le problème d'eau se pose avec acuité. Il y a des coins où les gens n'ont pas d'eau potable qui est fournie à la régie des eaux. Alors, ils aimeraient peut-être aménager un puits d'eau pour avoir de l'eau potable. Alors, quelles sont les normes à respecter pour aménager un puits d'eau?
Merci beaucoup pour la question. Je vous redis que je suis chef du département de physique des sols et d'hydrologie au commissariat général à l'énergie atomique.
Okay.
Bien sûr, j'assure les enseignements à l'université de Kinshasa également.
Mm-hmm.
Pour revenir à votre question, je vois que cette question doit être circonscrite dans le cadre général de captage de l'eau en vue de la situation de besoin de la communauté. En fait, on peut arriver à faire ce captage à l'aide de puits ou des sources. Mais je crois que le sujet d'un circonscrit, on parlera depuis au cours de cette émission.
Mmh.
Alors, la question, le point fondamental à résoudre lorsqu'on va procéder à un captage de puits, c'est-à-dire d'arriver à avoir à sa disposition une quantité suffisante pour arriver à couvrir leurs besoins. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se trouve dans un environnement qui soit suffisamment pour eux. On parlera éventuellement d'un aquifère, c'est-à-dire tout matériel qui soit perméable et qui puisse laisser couler de l'eau. Deuxième aspect, c'est l'aspect de la préservation de la santé. On peut avoir de l'eau à sa disposition, mais il ne faudrait pas que l'eau soit la consommée, cela peut s'altérer sa santé.
Mm-hmm.
Pour aller plus brièvement pour cette émission, s'intéresse vraiment à ce qui est le milieu rural.
Oui.
Pour arriver à capter un puits, il faut d'abord s'assurer qu'il y a de l'eau. Donc la première démarche à faire, par des moyens alimentaires, essayer de creuser un trou pour savoir à quelle profondeur on rencontre l'eau. Alors, en fonction des moyens qui sont disponibles, on peut alors s'employer à faire soit un puits sur le traditionnel, sans trop d'arrêt, pas trop loin élaboré, ou utiliser, recourir à une technologie beaucoup plus élaborée.
Mais comment savoir qu'à cet endroit, on peut trouver de l'eau?
Bon, généralement, on trouve de l'eau un peu partout, dans le sol. Mais le problème qui est là, c'est qu'il faut à quelle profondeur. Bon, si on est dans un bas-fond, il se peut qu'on trouve de l'eau en surface. Ça, c'est tout à fait facile, mais le captage, c'est tout à fait différent s'il était en profondeur. Parce que vous comprenez que l'eau qui est en surface est suyée par les eaux qui viennent, qui coulent de ruissellement.
Oui.
Donc, il y a des techniques très particulières pour le faire. Mais de manière générale, comme on trouvera, les gens cherchent rarement de l'eau dans le bas fond, parce que les murs sont très insalubles, c'est très difficile. On sait de s'élever un peu sur le fond pour se mettre à une certaine hauteur. Alors, pour cela, il faut tout simplement, de manière réglementaire, creuser un trou quelconque, mais de diamètre minimum de 80 cm, à l'aide de quoi? Avec une bêche, des pioches, le matériel tout à fait dur, on peut se servir de pic ou de pioche, de façon à pouvoir s'enfoncer et voir exactement à quelle profondeur, ce qui va hauteur la profondeur de l'eau. Ce n'est qu'à partir de cet instant qu'on peut maintenant s'employer à faire un puits dont le paroi sera stabilisé.
Alors, dans l'aménagement, stabiliser avec quoi?
Est-ce que vous voulez utiliser pour stabiliser
les parois? On n'a vraiment pas de moyens pour s'acheter des buses, par exemple, ou de faire une construction maçonnerie.
On est dans un environnement plus ou moins argileux sableux où la terre peut tenir quand on court un tour.
Mmh.
On peut tout simplement faire des tresses ou stabiliser avec des troncs de bois. Bon, il est vrai qu'il y a des gens qui recourent pour ne pas utiliser le fût, mais comprenez, si on est dans un environnement où l'eau est tout à fait acide, c'est maintenant des problèmes de rouille qui arrivent à altérer également la qualité de l'eau qu'on obtient.
Mmh.
Donc ça, c'est au niveau de la construction. Bon, si on a quelques moyens, on peut s'acheter des bulles. Donc après qu'on ait eu à identifier la profondeur de l'eau, je n'ai pas de moyens réglementaires parce qu'automatiquement, on a une tarière. On peut forer jusqu'à atteindre le niveau d'eau.
Mm-hmm.
Il y a des techniques qui sont utilisées. On joue par exemple du havage qui consiste à mettre pendant une buse. Après, il y a bien sûr qui doit être dans la nappe, il doit être foré, donc épiné comme on dit, il doit être épiné pour permettre le passage de l'eau. Et bien on creuse de l'intérieur et la buse par son propre poids descend. Lorsqu'on a fini de creuser, la première buse, il y a des trous. À l'intérieur de son profondeur, on met une seconde buse dessus et on se met à creuser de l'intérieur.
Mmh.
Donc, par le poids de la buse, tout l'équipement qu'on met en place, tout le reste qu'on met en place, s'enfonce dans le sol, tout à fait qu'on ait atteint le niveau de l'eau. Bien sûr, quand on a fait cette étape, il faut imperméabiliser la surface supérieure, parce que pour éviter que les eaux d'infiltration de l'extérieur s'écoulent dans le puits, autrement dit, contamination. En plus, on élève une marge de sécurité, en fait, des fonds de bordure surélevés qui, à la fin, sont couverts. Donc, il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'avoir la quantité qu'il faut, mais il s'agit aussi d'avoir de l'eau de qualité suffisante pour partir de la santé.
Mmh.
Alors, par rapport au positionnement, j'aimerais vous dire que le puits doit être implanté en amont de la trine pour éviter les contaminations, mais de manière générale, ça, ça demande d'être élaboré. Si on connaît le sens des écoulements, on connaît la zone de recharge, alors on a intérêt à s'organiser à mettre de l'eau dans la zone de recharge, mais pour éviter, faire en sorte que cette zone ne soit pas sur l'activité anthropique, les déchets et les habitations. Voilà ce que je peux dire brièvement en ce qui concerne le rural.
Alors, est-ce qu'on peut répéter ça en général, par exemple pour
Navao,
il y a ça là. Babenga ngone ni etok l'évolue à mai
donc
pendant mai à comme la parce que parfois mai régit des eaux et comme la kabangote et on dit ni babo ça la pomba ça l'évolue à la ya mai
bon pendant ça l'évolue à mai là avec du bosso sous on a place au monique mai ça la kabangote du bosso il y a pas de problème au ça la côté mon anglais na yo mais c'est moi sur le timoli au luka trop yo ça la au protéger au son construction maçonnerie de façon que ma mère écoute à peine une et puis tout autour appuie il faut beaucoup de gens au bas sur béton de valoisa de façon qu'on peut éviter sur la contamination
il faut aussi moi na ici comme moi en gombaise
de préférence faut au sol appui place mal de la ramine pour la contamination avec belle sur maintenant du colo au côté moi la boule au tir au bâton de mal pour ceux qui m'habillent vraiment ma casse au bout qu'on a été pour le pouce ça peut avoir un mètre de profondeur mais c'est comme la caméra 10-25 mètres de profondeur donc ça dépend quand on a belé Zahili si on a belé Zahili avant ma casse on a dit on a mouqué tir aucune place à mal mais il faut qu'on s'attaque profondément il y a un mètre pour avoir permis que ce soit juste cassé dans l'eau pour retourner à mal et puis de façon que ce soit la sécurité dans cette temps que ça retourne la sécurité on a bambungwe ni matalikote pour l'extérieur.
Il voulait en gros, il faisait à mon âme.
Au moins un mètre. De toute façon, que, déjà 80 ça va, mais un mètre. Pour sortir, tant aux autres, au-dessus de nos côtés du boulot, aux autres, la possibilité, au salon, au salon, pour barrer dans la case. Minimum un mètre.
Alors, au Timoli, au commun, à niveau mon ancien, à les mailles, bien.
Au moins les mailles. Au moins les mailles. On continue qu'au Timoli, de façon à dégager, quand c'est un maille, espace, où il y a la vie, dans la maille, autant on retourne calmement. C'est-à-dire que si on construit Katine, par exemple, pour l'ingrédient étant retenu sur Katine, ce qui va pousser la ramasser, poussière Roma et Matalikolo. Donc il faut au moins un minimum de 1 à 2 mètres de profondeur, au Yuma et Rosa.
Mais ceux qui, au Timoli, allez, au Yuma et Katine, au photo Kamai, au risque, on ne m'a pas basé, on ne se souvient jamais.
C'est pour ça que j'ai vu que les boulots, au Yuma et Zali, ils ont au moins profondeur à 1 ou 2 mètres.
Voilà.
Autant que tout aussi, parce qu'elle tourne comme Matate.
Et aussi qu'elle a nassé.
Et aussi qu'elle a nassé.
Voilà. Mais, ton soupe, on a évité que ça dit qu'on a dit boulot, tiens, qu'on va piner, peut-être,
peut-être, bon, ce qui moi, je vais soit ça la matière à tonneau, ou bien la pneu, pour tourner dans la bémo sommet, j'allais très assise, et voilà, t'es qu'à nous avec le temps.
Côté à tonneau, peut-être, et à l'ibouille.
Pour la tonneau, t'es qu'à la tue, à tomber du colon assez, on a mis un outil protégé de par les
dos. Mais au bit tonneau, il sert à la cide.
Aujourd'hui, on est plus à la stampe couleur rouge en maille, et puis on essaie de faire.
Alors aussi, il faut retenir le mandat.
Bon, ma bain est pour la. En principe, pour le gros sol, il y a un maçonnerie. Les bannis, il va faire un béton. C'est au moins un
béton. Le béton, il y a un béton bien
sûr. Le béton, il y a un béton autour. Ou de préférence, on sera facilement, il y a un buse. Au moins, on va mettre là-bas. Mais on a vu que tant que côté maïs, il y a un buse, on va faire un douceau.
Et lui, il y a un buse. Les questions de réaction composées de 081-890-63-94.
Vous êtes le centre de toutes les questions. Ils sont la solution pour tous vos problèmes. Radio Okapi est ici avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parlez, nous transmettons. Proposez, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Voilà, dans cette émission, les auditeurs nous appellent pour poser des questions. Nous avons par exemple Valérie Kambani de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voudrais poser la question à l'invité pour savoir si l'eau qu'on trouve dans un puits souterrain est nécessairement propre. C'est une eau qui vient d'une couche inconnue et donc on n'a pas l'assurance sur la qualité. Est-ce que cette eau-là ne peut pas avoir des gaz comme on en trouve dans des lacs, par exemple?
Merci beaucoup pour la question. L'eau qu'on obtient dans un puits n'est pas nécessairement propre. Il faut s'en assurer et ça va vous assurer de sa qualité. Mais vous comprenez que dans un milieu rural, on n'a peut-être pas, on n'a certainement pas de moyens pour arriver à faire des investigations pour déterminer la qualité. C'est pourquoi on tient d'abord, on accorde une attention particulière au choix de l'emplacement. Il faut forer le puits, comme je disais tout à l'heure, pas dans un milieu où il y a de l'eau, un milieu humide, dans un bassin. Parce que les eaux qui circulent sont susceptibles d'apporter tout ce qui peut avoir comme déjection, microbes, ou même matière solide en suspension. On dit qu'il y a la qualité de l'eau. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se mettre un peu en amont, sur le versant, et prendre l'eau en profondeur. Bon. L'autre aspect qui se pose, c'est que l'eau qu'on puise, ça dépend maintenant de son alimentation. Est-ce que ça va une nappe phréatique, c'est-à-dire une ressource qui est simplement alimentée par les pluies, ou tout simplement c'est une eau qui est une résurgence d'une nappe profonde qui est dans la majorité des cas protégée. La plus grande contamination qu'on craint généralement dans le milieu rural, c'est la contamination avec des matières fécales. Donc il faut s'employer à ce que les puits soient très éloignés des lieux de dépôt de déchets. De charbon,
des toilettes. Hein.
Des toilettes, essentiellement ça.
Des poubelles.
Des poubelles, des élevages, ainsi de suite. Mmh. C'est la seule éloignée. Au minimum, on dit généralement, c'est 15 mètres de toilettes. Et moi, je dirais même plus 150 mètres de tous ces lieux.
Mmh. Ouais. Pour être à l'abri.
Pour être à l'abri de ces contaminations. Mais si vous arrivez, parce que c'est pas toujours pas le cas, si vous arrivez à capter une nappe tout à fait profonde vers sa résurgence, vers les sources, c'est-à-dire que si on la prend un peu en amont, elle est encore profonde, là, on peut préserver de la qualité parce que si la recherche se fait en dehors de votre zone de captage, on n'a pas beaucoup d'inquiétude. Et que les positions qui vont intervenir pourraient arriver à avoir un effet s'il y avait des écoulements superficiels qui conduisent vers le puits. Mais si cette zone est suffisamment bien protégée, on peut être garanti d'avoir une eau tout à fait saine. Bien sûr, si sa qualité au préalable est connue, je dis qu'en milieu rural, sera difficile. On présume que c'est des environnements non pollués et que l'eau qu'on obtient est de bonne qualité.
Ami, s'il nous appelle depuis Baraka, au site Kivu, bonjour.
Bonjour, je suis à la nouveauté.
Oui, Yannis. On vous écoute.
On est tout dans le détail. Et je n'ai pas de condition de tout temps.
Quelle est
la première chose. La vraie détention d'un tout temps. C'est la première chose que je prends. La deuxième, c'est pourquoi nous depuis le pays, alors que le travail est prévu.
Merci. On a du mal à saisir vos propos, mais je sais que la première question,
la vraie définition. Donc,
il a parlé de la définition, oui. De la vraie définition.
Mais c'est une excavation faite dans le sol. Pour parler plus simplement, c'est un trou fait dans le sol en vue d'atteindre la nappe pour arriver à s'en servir.
Il dit pourquoi on dit toujours que l'eau des sources est pure alors que cette eau provient du sol qui est, et cette eau n'est pas traitée.
Non, c'est-à-dire que j'ai eu à évoquer tout à l'heure la notion sur la zone de recharge. Vous savez, on peut voir surgir une source ici, mais cette source peut alimenter des eaux qui viennent de plusieurs milliers de kilomètres. Ça, c'est d'abord un premier aspect.
Deuxième aspect, c'est sous la terre, et les eaux circulent.
Non, parce que vous devez savoir que toute l'eau qui est sous terre, là, provient des pluies. Il faut que l'eau s'infiltre. Or, ce n'est pas partout que l'eau s'infiltre. Vous savez qu'il y a des zones qui sont imperméables. Quand vous êtes sur un terrain argileux, ce terrain est préférentiellement imperméable. Donc, les eaux qui tombent ont tendance à s'écouler ailleurs. Mais si vous êtes dans un environnement où vous avez du sable ou de matériaux très poreux, toute l'eau qui arrive s'infiltre. Alors, par-dessus l'infiltration, l'eau qui provient de la pluie, qui éventuellement pourrait être chargé par des déchets en postérieurement de ruissellement, lors de l'infiltration, ces ondes sont, si vous voulez, ça le terme, sont filtrées. C'est-à-dire les particules, là-bas, oui, par le sol. Les particules les plus grosses sont retenues, et au fur et à mesure qu'elles vont en profondeur, il s'est fait un mécanisme d'échange entre, si vous voulez, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais tout ce qu'il y a comme particules est échangé entre l'eau qui s'infiltre et les pores, l'eau s'infiltre par travers les pores, mais les pores sont construits par, ce sont des vides créés par le rassemblement des particules solides qu'on appelle le sol. Ces sols peuvent être soit argileux ou limoneux, or certaines particules comme l'argile développent des choses spécifiques. Donc elle peut arriver à prendre par des réactions électrovalentes des particules minérales pour être chargées. Donc en fait, il s'établit une filtration de l'eau pendant son parcours. Et cette filtration est plus importante, plus la colonne de sol, ou c'est plus la profondeur tout à fait grande. Ce qui fait qu'à la résurgence, on obtient automatiquement une eau tout à fait pure.
Bon, il est vrai que c'est qu'on parle des sources d'eau. Alors, cette eau-là, qui a des pluies qui s'infiltrent, s'infiltre dans le sol et qui est purifiée,
par le mécanisme d'infiltration.
Elle va chercher une voie de sortie quelque part, et puis peut-être qu'elle provient de très loin.
Elle peut provenir de très loin, parce que l'eau qui s'infiltre, finalement, elle atteint, si vous voulez, à un moment donné, elle atteint un niveau qui est imperméable. Lorsque ce niveau t'attend, l'eau commence à s'accumuler. Elle atteint une certaine charge, comme on dit, pour arriver à s'écouler, saute pour toute la charge, pour ressurgir vers des ruptures de topographie. Mm. Parce que souvent, la configuration du terrain, généralement, on a une roche tout à fait dure, qui peut se monter par une roche qui est tout à fait perméable, qui éventuellement peut se monter par une couche imperméable, ainsi de suite. Alors, dès que la couche imperméable est atteinte, cette couche est généralement homogène, elle est continue. Mais vous savez qu'on rencontre forcément des versants, c'est-à-dire des terrains en pente, et qu'on peut voir la différence entre le terrain qui est dur et le terrain qui est meuble au-dessus. Et on voit généralement des sources ressurgir pour la partie meuble qui est au-dessus de la partie dure. Donc cette eau est présumée être potable. Mais n'oubliez pas qu'il faut se faire des infiltrations tout autour du puits, et c'est ça le grand problème. Dans les zones qui sont habitées, ben, si le terrain est meuble, les infiltrations peuvent se faire, et ces infiltrations peuvent arriver à contaminer l'eau qui est au préalable, qui est de très bonne qualité.
Alors, nous avons une Jean de la Croix, depuis Baraka, bonjour.
Bonjour, je dis Dacil Kachama. Bonjour, monsieur l'invité.
Ah oui, bonjour, on vous écoute.
J'ai une préoccupation, ma préoccupation est la suivante. Quelle que soit la profondeur d'un puits, est-ce qu'il peut arriver des fois l'eau qui se trouve au fond de ce puits s'épuise? Et si la réponse est oui, est-ce qu'on peut démolir les puits et continuer à creuser? Ou c'est déconseillé?
Bon, ça dépend. Le puits s'épuise quand la nappe n'est pas rechargée. Je vous ai parlé tout à l'heure de la zone d'alimentation. Bon, on peut se retrouver dans un fond alluvial ou avec l'eau de puits dans un environnement meuble, l'eau puisse s'accumuler. Si vous creusez votre puits, vous vous rendrez compte qu'en puisant, en récupérant de l'eau, le niveau va pouvoir baisser rapidement. Ben, c'est ce genre de puits qui arrive à tarir. Mais si vous prenez l'eau dans un aquifère, comme je l'ai dit, qui peut s'alimenter de très loin, tant qu'il y aura l'écoulement, tant qu'il y aura la recharge, vous aurez toujours de l'eau. Ben, c'est ça la préférence. Parmi les critères de choix, il faut s'organiser pour faire un petit dans un environnement dont la recherche est tout à fait régulière.
Pendant la saison sèche, il va y avoir une diminution de la quantité.
C'est des puits qui sont rechargés exclusivement par la pluie et au niveau local, qui sont assujettis par justement ces phénomènes de saison sèche et de saison pluvieuse. Pour avoir de l'eau en saison pluvieuse, dans la saison sèche, s'il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de pluie, elle ne se peut alimenter. Dans ce cas-là, vous pouvez beaucoup, il n'y aura plus d'eau. À moins que la nappe soit suffisamment profonde. En fait, quand vous forez, vous trouvez encore une quantité d'eau qui va s'épuiser et ainsi de suite.
Là, vous n'allez plus continuer à
pousser. Donc, il va avoir la chance de tomber sur un puits tout alimenté de manière permanente, dont les recharges sont effectuées dans les zones lointaines et qui vous assure une continuité d'alimentation pendant toute l'année.
Cyprien Moutéba nous appelle depuis Kalima au Manima. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je voudrais laisser ma question. Je dis ceci. Par exemple, vous êtes en votre parcelle, vous mettez pour chercher l'eau concernant le sujet de deuxième partie locatif service, mais vous sentez que l'eau que vous aviez trouvée dedans a la colère et dans les mauvaises odeurs. Qu'est-ce qu'il y a maintenant?
Eh bien, en milieu rural, je vous conseille simplement de ne pas poser cette eau et de ne pas la consommer surtout. Vous avez intérêt à aller ailleurs, éventuellement, trouver notre espèce en plein d'autres beaucoup plus préparés. parce que vous parlez des odeurs, de couleurs, on ne sait pas quel élément est à la base. Bon, généralement, on vous dit pour traiter les physiologues de Javel, il s'agit juste que les micro-organismes qu'on peut retrouver. Mais ça ne traite pas des pollutions qui sont liées, par exemple, à la présence des métaux lourds. Des éléments comme le plomb, le baryum.
Ça peut se retrouver.
Oui, c'est pour un problème d'environnement dans lequel l'eau s'accumule, en fait. C'est une géologique.
Voilà. Augustin, donc, si vous êtes devant un tel cas, il ne faut pas consommer cette eau-là.
Il ne faut pas consommer.
Augustin Katanda, le docteur de Pékinou. Bonjour. Augustin, bonjour. Augustin, est-ce que vous pouvez fermer la radio? Si vous pouvez fermer la radio à côté de vous, voilà. Allez-y.
C'est fermé.
Ok, allez-y.
Ok. Nous sommes ici à Kindou. Il y a des puits qui sont construits à côté des toilettes. Je veux savoir si cette eau-là est potable. Et à part ça, je veux savoir aussi si l'eau des pluies est potable. C'est juste pour ça. Bonne journée.
Merci, merci. Pour les puits qui sont consacrés aux toilettes, on peut présumer que cette eau-là a beaucoup de chances de ne pas être potable. Parce que finalement, on s'est dit, est-ce que c'est l'eau du puits qui va vers les toilettes ou c'est les toilettes qui vont vers le puits? Donc ça veut dire que tout simplement, il ne faut pas consommer cette eau-là. Donc,
l'aspect de l'eau des pluies est potable?
Oui, le puits est potable. Bon, il faut reconnaître que lorsque vous voulez la capter, vous allez la prendre sous la toiture. Faites quand même attention que les premières gouttes qui viennent, les premières gouttes qui s'écoulent, qui emportent la poussière sur la feuille, puissent partir. C'est-à-dire que l'eau devient un peu tout à fait de qualité acceptable. Elle est potable au puits.
Elle est potable, on peut la consommer.
On peut la consommer sans problème. Elle n'a peut-être pas assez d'éléments minéraux, mais elle est potable. Elle ne cause pas de préjudice à la santé de la personne qui la consomme.
Voilà, elle ne cause pas de préjudice. Alors, comment. Maintenant, on va parler de l'aspect maintenance.
Oui. Puis,
comment assurer la maintenance, l'entretien du puits?
Donc, le plus grand problème, c'est d'éviter que se fassent des infiltrations aux abords même du puits. Parce que c'est avec une infiltration qu'on peut arriver à assurer cette eau. Bon, pour les puits qui sont aménagés, je vois que le cas des milieux ruraux où quelqu'un peut arriver à faire un puits en maçonnerie pour mettre les buses, il faut pratiquement chaque année arriver à nettoyer les parois. Il faut bien nettoyer, brosser, laver et vider toute l'eau. Donc, c'est ça. Et puis, la plus grande précaution à prendre, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est éviter les infiltrations dans le puits. Donc, il faut que les abords soient stabilisés, imperméabilisés, et que la margelle, la partie qui se prend, soit tout à fait couverte, bien couverte. Et puis, que les abords soient éventuellement couverts de gravier, et plus loin, que les atteignants soient également dégagés en réserve, et faire en sorte que les eaux n'arrivent pas à s'écouler vers le puits, qu'elles soient dégagées sous périmètre.
Mais certaines personnes, dans certains endroits, ils jettent du sel. Après chaque 3 mois, on jette du sel dans ce puits pour, c'est pas purifier l'eau. Et c'est une bonne pratique, non?
Bon, il est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser le chlore dans le traitement de l'eau, mais c'est essentiellement pour la grande part pour des micro-organismes. Bon, les gens pensent que le sel qui est fait de NaCl peut réagir. Non, c'est le chlore libre qui détruit les micro-organismes. Ce n'est pas le chlore qui est lié au sélan dans le sel. C'est une pratique qui est de mise, bon, à moins que les concentrations ne soient élevées pour arriver vers des saumures, qui empêchent de remettre dans le micro-organisme. Mais une saumure, c'est de l'eau trop salée qui n'est plus durable. Donc le chlore libre n'est pas à confondre le chlore au chlore lié au sodium. Ça n'a pas le même effet.
Voilà, et si vous arrivez aussi à aller forer des puits partout à travers la République
Pas à travers la République, mais j'ai une expérience de forage. Je vois pas, l'expérience qui m'a édifié d'ailleurs, c'est que j'ai eu à forer un puits dans le plateau de Bateke, non loin de marécage. Pendant toutes les missions qui sont passées dans les environs, on n'avait jamais pu avoir de l'eau. Mais quelle était ma chance? Je suis tombé sur une fissure, une faille. Qui traverse le marécage. Les failles, c'est les fissures qu'on trouve dans les roches. Ces failles construisent également une forme de porosité par laquelle l'eau passe. Et si vous mettez votre puits en travers d'une faille, l'eau du marécage qui perd le marécage pour venir vers la faille, la porosité est suffisamment faible, les matières qui se sont dans les failles sont servies de filtre pour avoir une eau suffisamment propre.
Peut-être qu'il y a certains auditeurs qui aimeraient entrer en contact avec vous pour, pour cela. Ils peuvent vous joindre comment?
Le numéro de téléphone, c'est 0-81-542-99-22 ou par mail J de Longo, J comme Jean, N comme Noël, D comme Daniel, E comme Emmanuel, L comme lui, O comme Oscar, N comme Norbert, G comme Gabriel et O comme Oscar, yahoo.fr.
Yahoo.fr, numéro de téléphone, c'est
099-22.
Voilà, c'est le numéro de téléphone. Merci beaucoup, M. Jean Dembo Longo. Nous rappelons que vous êtes chef du département physique des sols.
Des sols
et hydrologie au commissariat
général à l'énergie atomique.
Merci et à la prochaine.
Ok, merci.